Olivier Lajousse, bonjour.
Bonjour.
Alors, Olivier Lajousse, dans la vie, vous avez deux passions, si je ne me trompe pas, la mer et les relations humaines. Vous avez été marin pour l'État français pendant pas mal d'années et puis vous vous intéressez aux relations humaines depuis très longtemps, aussi bien dans le cadre de la marine, puisque vous avez été un des promoteurs de la féminisation de la marine française, que dans un autre cadre dont vous allez très certainement nous parler également, et notamment les relations hommes-femmes, masculin-féminin, qui nous intéressent particulièrement, cet art de l'équilibre. Je commencerai par une question, par vous demander comment vous décririez justement cet art de l'équilibre entre le féminin et le masculin.
Ben, je trouve que la nature fait toujours bien les choses. Et la nature, elle a bien prévu qu'il y avait de l'anima et de l'animus, du féminin et du masculin. Et que quand tout ça se conjugue harmonieusement, quand chacun a sa juste place, ben, tout se passe très bien. Et donc, l'équilibre, pour moi, c'est une vertu essentielle. Chaque fois qu'on part dans les excès d'un côté ou de l'autre, on se met en danger et souvent, les excès se termine par de la violence, de l'injustice, alors que l'équilibre, ça oblige à aller chercher les possibles dans ce qui paraît inconnu ou improbable. Et donc, moi, j'aime l'équilibre parce qu'il l'oblige à aller chercher la conjugaison plus que la confrontation.
Et alors, justement, dans ce masculin et féminin, anima et animus, comment vous envisagez de trouver cet équilibre? Est-ce que aujourd'hui on voit que parfois, en tout cas, il y a un vrai déséquilibre qui se crée ou en tout cas qui est mis en avant?
Oui, ça fait trop longtemps que ça dure, effectivement. Je pense qu'il est grand temps de comprendre une fois pour toutes que l'humanité est composée de deux grandes sensibilités, une féminine et une masculine. Je suis un adepte de Carl Gustav Jung, qui est un grand philosophe, psychologue, écrivain du XXe siècle, et qui regarde la nature humaine avec une grande sensibilité et beaucoup d'intelligence, à mon avis. Il dit que l'on soit un homme ou une femme, on est tous un subtil mélange d'émotions, d'intuitions, de sensations et de sentiments. Ce sont les quatre grandes fonctions humaines qu'il a identifiées. Et il dit, de la même façon que ces quatre fonctions s'équilibrent plus ou moins, faisant de nous des gens intuitifs, plutôt intuitifs qu'émotifs, ou l'inverse, plutôt intello ou l'inverse, plutôt concret, tout ça s'équilibre autour des quatre fonctions que je viens de citer. Et de la même façon, il dit, il y a en chacun de nous, qu'on soit homme ou femme, un peu d'anima, un peu d'animus. D'une façon générale, l'anima est développée, chez les femmes, l'animus chez les hommes. Mais moi, je suis très fier de dire que j'ai une part d'anima qui m'est très utile pour vivre agréablement et pas risquer de ne voir qu'un morceau de la vie. Et donc, dans l'équilibre anima-animus, je pense que d'abord, il faut que chacun de nous accueille le fait qu'il a en lui un mélange qui est évolutif, d'ailleurs parfois avec le temps, en fonction des expériences que l'on peut vivre, de l'éducation que l'on reçoit, de tas de choses qui font que voilà, on a ces deux choses-là en nous et qu'on les développe plus ou moins. Et moi, je trouve intéressant de se dire, plus je vais chercher à écouter les deux, plus je trouverai des solutions intelligentes. Les sociétés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui sont héritières d'un long passé. Historique de l'histoire de l'humanité. Et donc, dès le départ, il a été posé que il y avait les chasseurs-cueilleurs qui allaient chasser et cueillir pendant que leur compagne restait dans la grotte, tenait le feu, etc. Et donc, on a donné des rôles aux uns et aux autres et on a mis beaucoup de temps à sortir de ce regard hiérarchisé entre le rôle des uns et des autres. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a commencé à progresser sur l'idée qu'il n'y a pas de rôle par avance écrit pour l'un ou pour l'autre, et que des femmes sont capables, dans la marine, de commander des bateaux, de piloter des avions, des hélicoptères, de dépanner des grosses machines, etc., etc. Il n'y a pas de métier plus féminin ou plus masculin. Dans le même temps, si on veut regarder les choses avec beaucoup de sincérité, force est de constater que globalement, la nature féminine est plus forte dans tout ce qui est conjugaison, diplomatie, empathie, etc., que le côté anima est plus comme ça que le côté animus. Après, je pense que l'éducation que nous recevons renforce plus ou moins ces tendances, et qu'aujourd'hui, je trouve très rassurant de voir que finalement, on essaie de dire ben, il faut ne pas cantonner les femmes dans certains rôles et les hommes dans certains rôles. À l'inverse, je ne suis pas forcément à l'aise avec tous les débats qu'il y a autour du genre. Moi, je suis très attaché au genre et je trouve très chouette que dans la nature, j'ai des femmes et des hommes, que ce ne soient pas tout à fait les mêmes physiques, que ce soit très complémentaire parce que la vie vient de la conjugaison de l'homme et de la femme, du masculin et du féminin, et que ce serait une erreur que de vouloir gommer tout ça. En revanche, je suis un fervent combattant de tout ce qui est nous devons avoir absolument les mêmes droits et les mêmes règles du jeu, en quelque sorte. Et ça, il y a encore des progrès à faire. Il est choquant de voir qu'il y a encore autant d'écarts de salaire dans certains endroits entre les hommes et les femmes, etc., etc. Et donc, il faut continuer à travailler ça, mais pas en reniant le fait qu'il y a bien un côté féminin et un côté masculin qu'il faut conjuguer et non pas gommer ou opposer.
Donc, vous parleriez plutôt d'équité que d'égalité quand on est aujourd'hui effectivement au cœur des débats à prôner, enfin, certains prônent l'égalité entre masculin et féminin. On est plus là sur une idée d'équité, j'imagine.
Oui, je vais peut-être choquer en disant ce que je vais dire, mais je pense que l'égalité, c'est un terrible poison, c'est terriblement dangereux. Parce que l'égalité ne prend pas en compte la diversité des capacités des gens. Quand on parle d'égalité, c'est la même règle pour tous et on ne prend pas en compte la différence entre les gens. Souvent, je dis, c'est une petite image que j'aime beaucoup raconter. Vous savez, il y a un match de sport, une compétition de sport qui se passe sur un terrain et bordant ce terrain, il y a une grande palissade. Et les spectateurs qui sont à l'extérieur du stade, s'ils veulent voir la compétition, eh ben, il faut qu'ils mettent le regard au-dessus de la palissade. Alors, arrivent trois personnes. Il y en a une très, très grande qui est debout derrière la palissade, mais sa tête dépasse la palissade, donc elle voit tout le match. Il y en a une de taille moyenne, elle est obligée de sautiller en permanence, donc elle voit le match en alternance, quoi. Et puis, il y en a une de petite taille, et ben elle voit pas le match. Et tout le monde dit, oui, mais regarde, on leur a mis la même caisse, c'est égal, hein, ils ont la même caisse, la même petite estrade, donc tout va bien. Eh ben non, tout va pas bien. L'équité, on donne une estrade à la haute, en prenant en compte la grandeur de chacun, et comme ça, tout le monde voit le match. Je pense que tout le monde peut se faire l'image comme ça dans la tête, elle est assez connue. Et c'est en ça que je pense que l'équité, c'est la seule façon de progresser dans la bonne prise en considération de ce qu'on appelle l'égalité des chances ou l'égalité homme-femme ou je ne sais quoi d'autre. Parlons d'équité, parce que l'équité, elle a une puissance considérable, c'est qu'elle accepte, elle reconnaît les différences entre les uns et les autres. Je me souviens, quand on a féminisé la marine, il y avait des combats sur... bon, on ne va pas quand même faire un règlement spécial pour les femmes, elles passent les mêmes épreuves sportives que les hommes. Oui, ben voilà, il se trouve que la puissance physique d'un homme et d'une femme n'est pas tout à fait la même, et que donc si on faisait ça, elle ne passait pas l'étape de l'épreuve sportive. Du coup, ça a arrangé certains parce qu'ils voyaient d'un mauvais œil arriver les femmes dans la marine, et donc ils essayaient de verrouiller ça. Là aussi, c'est une petite image très drôle. C'est Einstein, je crois, qu'il a dessiné, où c'est un jury. Il y a plein d'animaux de la forêt qui sont là et qui doivent monter un arbre. Donc voilà, chaque animal se présente, l'éléphant est un peu maladroit mais arrive à atteindre l'arbre, etc. Le lion monte vite dans l'arbre et puis arrive un poisson. Ben, pas de bol, hein, il peut pas monter l'arbre. Et ben, l'équité, c'est considérer qu'on ne peut pas demander à un poisson de grimper l'arbre et que donc l'épreuve de grimper d'arbre ne peut pas être commune à tout le monde et qu'il faut trouver les bonnes épreuves dont le principal but est de trouver les meilleures performances de chacun et de les conjuguer.
Et alors, vous qui travaillez aussi beaucoup avec les entreprises, donc vous avez travaillé au cœur des relations humaines dans la marine, mais vous conseillez aussi d'autres entreprises. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, cette notion d'équité rentre un peu plus dans le milieu professionnel?
Oui, elle progresse. Elle progresse, je ne peux pas dire le contraire, mais que c'est long, que c'est compliqué. Le problème, c'est que c'est compliqué à la fois parce qu'il y a, on peut le comprendre, une forme de militantisme excessif, de crispation de certaines femmes qui, du coup, deviennent quasi, pardon du mot, hystériques, violentes, exagérées dans leur façon de combattre pour l'égalité. Et puis de l'autre côté, des comportements tout aussi insupportables d'hommes qui continuent à penser que il faut surtout pas les laisser et les considérer égales à l'homme. Et donc, une fois qu'on pose ça, là encore, je préfère l'équilibre, c'est comment patiemment, tranquillement, on pose les sujets, on les travaille ensemble et on trouve ensemble les solutions. Il y a aucune raison à compétences égales, expérience égale, etc., qu'une femme continue à gagner 20% de moins qu'un homme dans beaucoup d'entreprises. Moi, je suis très fier de dire que dans la marine, à salaire égal, à compétences égales, les salaires ne distinguent pas l'homme ou la femme. Il faut qu'on arrive à ça. C'est une première clé. La deuxième clé, c'est tout ce qui est… Je me réjouis que hier, comme quoi l'actualité nous est toujours utile, on ait enfin porté à 2 semaines le congé dit de paternité. Parlons plutôt de congé parental et allons au bout du bout. Il serait logique que des parents aient le même droit à congé de paternité et qu'ils le partagent. Et si c'est 6 mois, c'est 3 mois pour l'un, 3 mois pour l'autre, et puis ils se débrouillent, ils répartissent ça comme ils veulent. Mais là, on part bien du principe que être parent, c'est la même aventure pour les deux, le papa et la maman, même si après, c'est bien la maman qui, pendant 9 mois, a pris un coup d'avance en portant le bébé et en ayant une relation très, très directe avec lui. Mais vous voyez, c'est tout ça. On a encore tous ces progrès-là à faire. Et puis, je terminerai ma réponse en disant il y a aussi un gros travail à faire sur le regard qu'on porte les uns sur les autres. Et je reviens à ce côté qui me met mal à l'aise. C'est pas en gommant la féminité des unes et la masculinité des autres, en cherchant je ne sais quelle règle sur la façon de s'habiller, en dégenrant les vêtements. Que chacun reste bien dans son identité d'homme ou de femme, l'assume complètement, parce que voilà, c'est beau comme ça, c'est naturel comme ça, et que on aille chercher tout ce qui rapproche et permet d'être ensemble, plutôt que de vouloir gommer. Il y a un type qui a fait ça dans l'histoire, c'est Monsieur Mao. Qu'on soit homme ou femme en Chine sous Mao, on avait tous la même tenue, le même bonnet, etc. Moi, je veux pas de ça. Je veux continuer à pouvoir dire, ben voilà, il y a de la diversité, il y a bien ces deux fondamentaux de la nature qui sont l'anima et l'animus.
Et l'anima et l'animus, vous en parliez tout à l'heure, en fait, quand je vous écoute, et ça paraît évident quand c'est dit, mais c'est bien de le redire, il y a cette idée d'équilibre, comme vous le disiez, à l'intérieur déjà, dans un premier temps, et aussi à trouver à l'extérieur. Est-ce que vous avez des clés pour aider les gens que vous accompagnez, par exemple, à trouver cet équilibre aussi bien à l'intérieur d'eux-mêmes dans un premier temps qu'à l'extérieur?
Il y a plein de clés. La première, qui me paraît essentielle, c'est de s'aimer soi-même. Parce qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Si on est complexé, en conflit permanent avec sa propre identité, d'ailleurs on voit bien le drame, d'une certaine façon, en tout cas la douleur de ceux qui s'interrogent sur « suis-je un homme, suis-je une femme ?» etc. Ce sont des gens qui sont souvent très fragilisés et qui, tant qu'ils n'ont pas trouvé la bonne réponse, sont torturés d'une certaine façon. Et donc, quand je dis « il faut d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres », c'est tant qu'on n'a pas fait la paix avec soi, on peut pas beaucoup avancer. J'ai passé du temps ce matin, comme je vous le disais, avec des Chinois et des gens d'Asie. En Asie, ils ont une très jolie image, un très joli objet qu'on appelle le kintsugi, K-I-N-T-S-U-G-I. Quand vous faites tomber un bol, on va prendre un bol au Japon, il se casse comme partout ailleurs, mais au lieu d'être mis à la poubelle, on l'amène chez un artisan qui va le recoller. Et en recollant tous les morceaux, dans la colle qui rejoint les morceaux, il met de la poudre d'or. Et ça donne un magnifique objet où il y a toutes les fêlures apparentes. Vous, comme moi, comme tous ceux qui nous écoutent et comme tout être humain, nous sommes le résultat de nos fêlures. On est blessé par la parole vexante d'un papa, d'une maman, d'un grand-père, d'un copain, d'une copine, je ne sais quoi. Et on met du temps à s'en guérir. On prend au premier degré quelque chose et on met du temps à s'en guérir. Et tant qu'on n'a pas guéri ces fêlures, ces blessures, tant qu'on n'est pas devenu un kintsugi réparé et encore plus beau qu'avant la cassure, on est en guerre avec soi, avec les autres, etc. Donc le premier travail à faire pour accepter de pouvoir aller à la rencontre des autres, les accueillir comme ils sont, sortir du jugement, des préjugés, c'est commencer par faire un travail sur soi et s'apaiser. La deuxième règle que je partage souvent, c'est une formule que j'emprunte à Mahatma Gandhi, que je trouve sublime, qui dit « Personne ne peut me blesser sans ma permission. » Personne ne peut me blesser sans ma permission. Soit je prends au premier degré tout ce que l'autre fait, je suis en conflit permanent, toujours je me demande quel mauvais coup il ou elle veut me faire, je suis dans la défiance et c'est fini. La défiance, c'est le pire poison des sociétés. La défiance, ça tue les relations parents-enfants, ça tue les couples, ça tue les relations professionnelles, c'est un poison absolu. Et malheureusement, on met beaucoup de défiance dans nos sociétés. On se demande toujours ce que va faire l'autre. On lui prête toujours de mauvaises intentions au lieu de l'accueillir, de le recevoir et de s'émerveiller de sa différence et de se dire bah, c'est complètement ah oui ça m'étonne complètement mais regardons et laissons venir et puisque ce qui me dérangera ben je le dirai ce qui me kiffera je le dirai voilà simplement cette authenticité, cette sincérité qui permet de ne pas juger. Dans son roman La Chute, Albert Camus écrit: j'ai connu le pire, c'est-à-dire le jugement des hommes. Et là encore il y a une formule très forte, c'est-à-dire que dès qu'on arrive à rentrer en relation aux autres sans rentrer directement par un jugement. Ah ben voilà, c'est une jeune femme, elle est brune. Ah ben lui, c'est un vieux, il a plus de cheveux sur le caillou et des lunettes, donc forcément, tac, tac, tac. Et puis voilà, nous voilà, vous et moi, jugés en fonction d'une apparence. Mais derrière ce que montre l'image, il y a vous, il y a moi, avec nos histoires, nos fêlures, nos kintsugi personnels. Et donc, ça, c'est d'une richesse incroyable. Et plus on ouvre la porte à cette richesse, plus on laisse de la place, plus on se garde de juger, plus on est capable de trouver ensemble des solutions qui vont harmoniser, conjuguer, équilibrer les différences, les complémentarités, etc., etc.
Oui, alors vous m'enlevez le mot de la bouche, mais complémentarité, en vous écoutant, c'est à ça que je pense en fait. Il y a vraiment cette idée qu'on est complémentaire en fait.
Oui. Évidemment, on est complémentaires, je crois beaucoup à ça. Et plus il y a de la complémentarité, plus il y a potentiellement de la créativité, parce que chacun avec chacun chacune avec ce qu'il est, ce qu'elle est, ses sensibilités, etc., va venir réagir par rapport à l'autre. Et c'est bien, action-réaction d'une certaine façon. Et ça fait la vie. La vie, c'est sympa quand justement. C'est le grand Teilhard de Chardin, un théologien, qui dit « Il y a de la vie quand il y a du questionnement et du mouvement. » Le jour où on ne se questionne plus parce qu'on croit qu'on sait ou qu'on ne bouge plus parce qu'on n'en a plus l'énergie, c'est fini, c'est la mort. La mort, c'est plus de questions, plus de mouvement. Et donc, accepter d'être en questionnement et en mouvement, d'être obligé de sortir, de se déloger de son confort, de sortir de sa zone de confort, pour continuer à enrichir ses capacités à comprendre, à décoder, à créer. Ça, c'est la vie. Et la vie, elle est toujours dérangeante, mais elle est tellement belle. La vie, elle est belle parce qu'elle est dérangeante. Si elle n'était pas dérangeante, elle serait insupportable. Et donc, dans la complémentarité anima-animus, ça gratouille, ça oblige à accepter qu'il y a une façon différente d'exprimer la chose, de la regarder, de la ressentir. Et cette... Ouais, cette cette différence, elle fait la richesse, et si elle est bien conjuguée, elle donne des, je veux dire, un enfant, ça arrive au monde parce que voilà, un homme, une femme se rencontrent, et puis voilà, ça va donner la vie de la même façon que, et ça se passe dans le règne animal, dans le règne végétal. C'est bien une rencontre, une conjugaison, et paf la vie. Et moi, je trouve ça magique. Je dis souvent, j'oublie jamais que voilà, j'ai eu un papa qui a bombardé ses spermatozoïdes qui sont rentrés dans l'ovule de ma maman. Coup de bol, ça a marché. Coup de bol, je suis là. Ça aurait pu ne pas marcher parce que parfois, ça marche pas. Et donc, la vie, elle commence comme ça. Pour nous, les humains, c'est magique. C'est absolument magique. Bon, aujourd'hui, on a appris à utiliser les spermatozoïdes, à faire du in vitro, etc. C'est bien, c'est pas bien, on en pense ce qu'on veut. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, au départ, c'est bien la conjugaison d'un anima et d'un animus, d'un spermato et d'un ovule qui va donner la vie. Et quand on n'oublie pas ça, c'est tout simple, ça peut paraître trivial, ça peut paraître je sais pas quoi, mais la vie, elle vient de là. Et donc, il faut jamais l'oublier, la vie n'apparaît que par la conjugaison et la coopération de choses différentes qui s'harmonisent et trouvent une réponse.
Et alors, qu'est-ce que vous pensez de la parité ? Pareil, quelque chose dont on parle beaucoup ces dernières années.
Là encore, quand c'est un dogme, c'est stupide. Il n'y a pas pire offense à faire aux femmes que de leur dire, eh ben tiens, je te propose à tel poste parce que tu es une femme, tu comprends ? Et que comme il faut qu'on rentre dans les quotas 50% de machin, c'est insupportable d'entendre ça. C'est irrespectueux de la personne et ça n'a aucun sens. En revanche, tout faire pour faire en sorte qu'on équilibre rapidement les cercles de décision, etc., en permettant au plus grand nombre de femmes possible de rentrer dans des parcours qualifiants, des parcours où elles vont pouvoir légitimement, en toute légitimité, arriver à des postes de responsabilité, moi, ça me va bien. Alors, c'est tout le débat autour de faut-il faire de la discrimination positive ou pas. Moi, je suis plutôt pas très à l'aise avec la discrimination positive parce que justement, je la trouve dégradante ou non respectueuse de. J'ai un profond respect et je suis prêt à me battre pour ça de la dignité de la personne humaine. Chacune, chacun d'entre nous doit être respecté. On est digne de plein de choses, on est indigne de plein de choses, mais on est une personne humaine. Et la dignité de la personne humaine, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit d'agresser. Et moi, je trouve agressif le fait de dire à quelqu'un, au prétexte que tu es une femme ou un homme, on te propulse vers telle responsabilité. Après, le monde parfait n'existe pas, et donc sélectionner quelqu'un que sur une compétence, on sait bien que c'est pas si simple que ça. Donc, il faut, là encore, qu'on progresse considérablement dans notre capacité à amener dans les instances dirigeantes de toutes nos organisations, quelles qu'elles soient, un subtil équilibre entre des anima et des animus. Et je vais même plus loin. Aujourd'hui, comme en plus tout ça, beaucoup de nos organisations sont définitivement internationalisées, si en plus on y rajoute des cultures différentes, parce que clairement, l'asiatique, l'africain, l'européen, l'océanien ne raisonnent pas de la même façon pour plein de raisons. En tout cas, ont chacun une façon de raisonner. Quand on les conjugue, ça devient beaucoup plus puissant. Et donc, les entreprises qui ont l'audace d'équilibrer anima, animus et différences culturelles, la plupart du temps, elles s'en trouvent très très bien parce qu'il y a beaucoup plus de créativité, d'imagination. Donc la parité, c'est très dangereux quand c'est dogmatique et en même temps, c'est un combat humain qu'il faut continuer à mener pour atteindre l'objectif que je viens de citer et qui n'est pas simplement homme-femme, qui est bien plus large qu'homme-femme, qui est homme-femme, regard différent, c'est vraiment la diversité. Et donc, comment on promeut la diversité dans toutes nos instances dirigeantes ?
Et justement, vous avez l'expérience de la marine qui a été ouverte aux femmes. Vous avez senti beaucoup de résistance. Ça a été compliqué à mettre en place ?
Oui, ça a été compliqué, comme partout ailleurs. Ça a pris du temps, surtout dans un milieu où il y a des repères très forts. C'est il y a la guerre, donc… On nous a éduqués pendant des siècles sur le fait que la femme ne peut pas faire la guerre parce qu'elle est là pour donner la vie et donc elle ne peut pas prendre la vie. Enfin, des dogmes très, qui viennent de, du monde chrétien, notamment, mais pas seulement. Ensuite, voilà, il y a eu tout un… Et donc, quand on a commencé à lancer ça, ça a été difficile. Ensuite, il y avait toutes les peurs. Ça y est, une fois que les femmes vont être à bord, ça va être le désordre complet parce que un mec, quand il voit une femme, et puis certaines femmes, quand elles voient un homme, etc. Donc, je vous laisse imaginer les débats. Ensuite, de façon encore plus incroyable mais vraie, les femmes de marins elles-mêmes, quand leur compagnon partait en mer pendant des mois rien qu'avec des mecs, ça allait. Là, le simple fait de savoir qu'elles avaient, entre guillemets, des concurrentes à bord, pour certaines, ça a été très difficile à accepter. Et c'est des choses aussi simples et triviales que ça qu'il nous a fallu accompagner, expliquer… Après, c'est pas un monde de bisounours. On a eu, comme partout ailleurs, des échecs avec des moments où ça s'est mal passé. On a eu quelques cas de harcèlement dans les deux sens, d'ailleurs, hein, qu'il a fallu gérer. Je crois que le ministère de la Défense a été un des tout premiers à mettre en place une cellule où les gens victimes de harcèlement pouvaient aller s'exprimer très librement, et ça remontait très très vite pour qu'on essaie, enfin qu'on trouve les solutions et comment gérer ça, même si c'est jamais facile, hein, de gérer ces situations-là, parce que c'est rarement que d'un côté, c'est toujours un jeu un peu complexe. Voilà, donc ça a pris du temps. C'est venu comment, si je devais raccourcir. Merci là encore au coup de pied au derrière que nous a donné l'histoire. Quand le mur de Berlin tombe, que le monde change, que toutes les organisations militaires doivent se réinventer parce que le monde change d'un coup, et que dans le même temps, on voit bien que de plus en plus de parents ne sont pas prêts à imaginer que leur enfant aille mourir là-bas dans des déserts lointains sans qu'on sache très bien les raisons du pourquoi, du comment, est venue l'idée de la professionnalisation. On rajoute à ça le fait que le service militaire arrivait à bout de souffle et qu'il y avait des incohérences majeures. Comment parler d'égalité homme-femme et ne pas soumettre les jeunes filles à la même règle que les jeunes hommes? Ça n'a pas de sens. Il y a des pays où les hommes et les femmes font le service militaire, Israël et d'autres, et là, ça a du sens. Mais nous, pourquoi les mecs et pas les filles, si j'ose dire. De l'autre côté, ensuite, l'arithmétique des naissances faisait que, en gros, il y a 800 000 naissances par an en France, durablement depuis plusieurs années, la moitié garçons, la moitié filles. 18 ans plus tard, il y a malheureusement eu quelques morts, quelques décès, quelques machins. Donc, il reste 380 000 garçons à peu près. Et là-dessus, on n'en prenait que 180 000. 200 000 étaient exemptés d'office. Et sur les 180 000, les conditions de ce service n'étaient pas tout à fait les mêmes selon que on pouvait être scientifique du contingent. Voilà. Donc, il y avait plein de choses. Et puis, dernier élément, nos armées étaient de plus en plus techniques. Et donc, il fallait des gens de plus en plus capables de maîtriser ces technologies-là. Et donc, on passait beaucoup de temps à préparer les appelés à bien servir à ça. Et puis, en fait, ils partaient. Et comme on avait raccourci le temps du service, c'était une gabegie d'une certaine façon. Donc, il y avait une grande légitimité à professionnaliser. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que si nous n'allions pas chercher les talents féminins, on aurait de gros soucis de qualité du vivier, de la ressource. D'ailleurs, les pays qui n'ont pas féminisé à ce moment-là, je pense à nos amis anglais, eh ben ils ont eu des gros soucis. C'est qu'ils sont allés chercher des garçons qui n'étaient pas forcément les plus adéquats pour tenir des métiers exigeants qu'on proposait sur les bateaux de la Royal Navy. Nous, on a tout de suite compris qu'il fallait féminiser, et ça nous a aidé à gagner la partie. Ça a été parmi les arguments qui nous ont permis de donner les coups d'épaule pour faire venir la féminisation. Et ensuite… ça s'est plutôt très bien passé. D'abord parce que les femmes qui sont venues en avaient envie, elles avaient vraiment envie de faire ce métier, tellement il est spécifique, et ont été exemplaires et ont fait la preuve de leur talent, de leur implication. Et donc, petit à petit, ça s'est mis en place. Il a fallu presque 10 ans pour que, petit à petit, on accepte la présence féminine à bord, etc. Et plus de 20 ans avant qu'on ouvre quasiment tous les espaces de la marine aux femmes. Le dernier étant ouvert, il y a très peu de temps, il y a 3 ans ou 4 ans, c'est celui des sous-marins. Parce que là encore, vous vous rendez compte, vous êtes enfermé 70 jours sous l'eau dans une boîte fermée, qu'est-ce qui va se passer au secours? Voilà. Donc, tout ça, ça se met en place lentement, mais ça marche en parallèle d'une évolution de la société qui a été que Moi, je suis un mec, un animus de 65 ans, éduqué dans l'idée que voilà, les filles, c'est les filles, les garçons, c'est les machins. Et donc, il y avait l'école des filles, l'école des garçons. C'était vraiment… voilà, c'était comme ça. Aujourd'hui, un jeune homme qui a 20 ans, 22 ans, qui rentre dans la marine, il a passé tout son temps à l'école entouré d'anima et d'animus. Et donc, il n'y a plus cette césure très forte entre les deux mondes. Il a même appris à être ami de filles ou de garçons, à faire des épreuves sportives. Voilà. Donc, on peut comprendre. Il y a la féminisation de la marine, ça remonte aux années 90, hein, donc il y a bientôt 30 ans. Enfin, en tout cas, il y a un quart de siècle, 25 ans que c'est en route. La génération qui était très hostile à ça au début, elle a disparu aujourd'hui. Enfin, elle est plus en activité de service, comme on dit. Elle est partie à la retraite. Et donc, voilà, dans la population, la marine, c'est une moyenne âge de 30 ans, 32 ans à peu près. Ben voilà, les gens, filles et garçons, c'est plus un problème. Et donc, ça facilite la fluidité de la féminisation. Qui se poursuit. Après, on est à 17-18%. Il y a encore de la marge, si j'ose dire, simplement parce que ce sont des métiers qui font qu'on est souvent absent de chez soi. Que donc voilà, il y a encore évidemment des progrès à faire. Là où je pense qu'on a réussi ce rendez-vous avec l'histoire humaine, c'est que vraiment aujourd'hui, tout est en place pour qu'il n'y ait plus aucune différence de déroulé de carrière entre des hommes et des femmes. Il reste le fait que quand une femme devient maman, donc il y a le temps de la grossesse, forcément elle s'arrête, et donc on a encore des progrès à faire pour que cet arrêt, le temps de la ou des grossesses, ne soit pas un handicap pour la poursuite de carrière. Parce qu'on a des carrières qui sont un peu comme des courses, des sauts de haies, là vous voyez, vous sautez les haies les unes après les autres. Il faut les avoir sautées pour avoir le droit d'accéder au poste suivant, parce que derrière c'est une compétence, une expérience qui font que vous êtes prête et prêt à faire ce métier-là, enfin à relever le défi de cette fonction-là. Et donc il faut qu'on joue avec le temps et qu'on améliore encore notre capacité à ne plus enfermer les femmes à cause du fait qu'elles prennent mécaniquement un peu de retard en calendrier par rapport aux hommes. D'où la nécessité du congé de parental équilibré, parce que là, ça rééquilibrera les choses et donc on sera obligé de trouver les solutions. Ça, c'est encore des progrès à faire. Ce sont encore des progrès à faire.
En tout cas, c'est très, très encourageant et très inspirant d'une façon même plus globale pour ce chemin vers l'équilibre entre anima et animus.
Oui, absolument.
Un dernier mot peut-être sur cet art de l'équilibre, sur ce yin et ce yang.
Bah, moi, je suis convaincu que l'équilibre, c'est une vertu absolue et que c'est ce qui permet le vivre ensemble, le entreprendre ensemble, le créer ensemble. Chaque fois qu'on se laisse emporter dans des grands dogmes qui fracturent, des trucs qu'on se laisse emporter par la passion, l'émotion, on se met en danger. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas laisser s'exprimer les émotions, qu'il faut étouffer les passions, mais il faut toujours aller chercher ce qui va permettre de faire du « et » plutôt que du « ou ». Le « et », c'est magique. Le « ou », c'est dangereux, ça ferme les portes. Et chaque fois qu'on ferme une porte, c'est dur de la réouvrir après. Et l'histoire nous a montré que chaque fois qu'on humilie quelqu'un, qu'on le ruine, il reviendra et il se vengera. Et donc, comment éviter cette espèce de compétition et confrontation permanente? Comment, en conjuguant anima animus, on va aller chercher tout ça? Je trouve merveilleux en ce moment de regarder ce qui se passe en Europe. Ben, ce sont à la tête des plus grandes, des grosses institutions de l'Europe, il y a des femmes qui sont pas arrivées là par hasard et qui sont qui apportent cette espèce d'équilibre absolument nécessaire. Pour finir, parce que j'aime l'équilibre, les gens qui m'ont le plus marqué dans ma vie, qui m'ont donné envie de leur ressembler, qui m'ont donné envie de continuer d'avancer même quand c'était difficile, c'était des gens qui avaient un talent absolu de l'humour. L'humour comme un subtil mélange d'humilité d'un côté et d'amour de l'autre. Donc le HUM de humilité et le OUR de amour. humblement, il faut se souvenir que la vie, c'est plein de joie et de peine, c'est plein d'incertitudes. On peut jamais l'écrire à l'avance. On peut essayer de faire son mieux, mais voilà, on ne sait jamais. Et donc, il faut accepter l'incertitude. Emmanuel Kant dit « On reconnaît l'intelligence à la quantité d'incertitudes qu'un individu est capable de supporter ». Et j'aime bien cette formule. Et en ces temps très perturbés de la Covid-19, etc., on voit bien que chaque fois qu'on perd l'équilibre en se laissant entraîner par la peur, la frayeur, la critique, etc., on se met en danger. Alors que si on reste, comme disent les marins, calme et stable au cap en disant « Ok, c'est dur, mais on va en sortir, on va y arriver parce qu'on va s'entraider. » Voilà. Puis du coup, humblement, on se souvient que c'est comme ça et puis on aime la vie, on l'aime passionnément. L'amour de la vie, parce qu'il n'y a rien de plus beau que la vie. Et donc, quand on aime la vie, le mélange humilité-amour, ça équilibre tout et ça permet de vivre sans tout le temps considérer que la vie, c'est triste. Parce que la vie, c'est beau. Et donc, les gens qui m'ont le plus impressionné par cette force de l'équilibre, ce sont des gens qui avaient une incroyable capacité à l'humour. L'humour comme un subtil mélange d'humilité, H-U-M, de humilité d'un côté, et d'amour, O-U-R, d'amour de l'autre. Humour. C'est un jeu de mots, mais que je trouve très magique, que j'utilise parce que il résume bien ce goût que j'ai de conjuguer plutôt que d'opposer. Humblement, je me souviens que la vie, elle est hyper fragile. Elle peut partir à tout instant. Elle est fragile. Elle est à la fois très fragile et très forte. Regardez une image. Il fait sec pendant des mois. La terre se craquelle. Il n'y a plus rien qui pousse. Aux premières gouttes d'eau, on voit une petite tige verte qui sort de la terre. La vie reprend, repousse. Elle revient très vite. Donc, la vie, elle a toutes ces capacités-là. Elle est absolument magique. Mais nous, les humains, il faut qu'on soit d'une grande humilité envers elle. Et du coup, tout en étant très humble, l'humilité ne doit pas nous rendre peureux, etc. L'autre versant, on retrouve le yin, le yang, l'animal, l'animus, l'équilibre, c'est l'amour, l'amour de la vie, quand on aime la vie. Les gens qui aiment la vie, ils sont toujours capables d'aller chercher des solutions, même quand c'est compliqué. Il y a cette force de l'espérance de la vie qui les porte à aller chercher partout des solutions et ils ne les trouvent que en conjuguant les choses, en les harmonisant, et en allant chercher tous les possibles. Voilà, et c'est pour ça que j'aime bien l'humour, parce que plus on est dans cette logique d'aimer la vie, plus on se donne des chances de ne pas avoir peur de l'autre et ne pas avoir peur de soi, de ses sentiments, de ce qu'on en éprouve.
Ben, merci beaucoup pour cette belle conclusion et puis ce bel échange.